Chère auditrice, cher auditeur, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire tragique. Une histoire de vie, de mort et de deuil dont j'étais le témoin bouleversé. Même si ce drame a eu lieu il y a déjà plus de 10 ans, son souvenir reste vif et tenace dans mon esprit. C'est un drame que je n'oublie pas et que je n'oublierai jamais. Parce que, au-delà du psychanalyste que je suis aussi un homme et un père. Après mon récit, je répondrai comme d'habitude aux questions que m'ont posées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce podcast émouvant. Je vous rappelle que nos prochains épisodes sont disponibles en podcast. Vous pouvez les écouter et enregistrer vos questions sur la page L'Inconscient.
L'Inconscient, Dr Nasio, sur France Inter.
L'histoire que vous allez entendre est triste, difficile à dire et pourtant vraie. C'est l'histoire d'Hélène, une mère foudroyée par la douleur, lorsque 2 jours après avoir accouché d'un petit garçon, le médecin lui annonce que son bébé est mort. Mais commençons par le commencement. Hélène a 37 ans, elle est directrice d'une agence immobilière et vit à Paris avec son mari, professeur d'italien dans un lycée. Elle était venue me consulter très angoissée parce qu'elle souffrait d'une infertilité inexpliquée qui avait résisté à tous les traitements. Malgré les échecs répétés, Hélène ne renonçait pas à devenir mère un jour. Nous avons alors engagé une cure où, pendant les 2 premières années, nous avons essayé d'identifier les possibles causes psychologiques de l'infertilité et traiter ses conséquences sur la vie intime du couple. Nous savons combien l'infertilité peut affaiblir le désir et étouffer la spontanéité des rapports sexuels. À propos des difficultés du couple, je voulais vous dire qu'en général, je reste très attentif à ce que pense et ressent le conjoint de mon patient. Dans le cas d'Hélène, je n'ai pas manqué de m'intéresser à l'implication de son mari dans le projet d'avoir un enfant et dans le recours à la procréation médicale assistée. Mais en dehors du problème de l'infertilité, nous avons repris avec ma patiente les événements marquants de son passé pour mieux dénouer les conflits du présent. J'en profite ici pour dissiper un malentendu à propos du passé qui serait idolâtré par les psychanalystes. Ce n'est pas le passé en soi qui nous intéresse, mais le passé traumatique à l'origine de la névrose d'aujourd'hui. C'est la névrose d'aujourd'hui qui nous importe. Et pour traiter cette névrose, il faut identifier le traumatisme infantile, le déterrer et l'intégrer dans le présent. Mais retrouvons notre patiente. 2 années se sont écoulées depuis le début de l'analyse et un matin, en arrivant à sa séance, avant même de s'allonger sur le divan, Hélène me regarde, le visage illuminé de bonheur, et s'exclame « Nous avons gagné !»« Je suis enceinte, docteur, enceinte, vous m'entendez ?» J'ai eu alors le sentiment de partager une victoire qui était aussi celle de tous ses proches qui s'étaient mobilisés pour réussir cette grossesse. Je pense à son mari, toujours si présent, et à son gynécologue, un éminent spécialiste du traitement de l'infertilité. Durant les 9 mois de grossesse qui ont suivi, nos séances connurent des phases intenses où Hélène, très anxieuse, s'angoissait à l'idée d'éventuelles complications de sa grossesse ou au contraire, s'excitait à l'approche de l'heureux événement. Enfin, l'heure d'accoucher arriva et Hélène mit au monde un superbe enfant. Ce jour-là, le jour tant attendu, elle me téléphone de la clinique radieuse pour m'annoncer la naissance d'un petit garçon qu'avec son mari d'origine italienne, ils ont prénommé Enzo. Très content, moi aussi, d'apprendre la nouvelle et d'entendre Hélène si joyeuse, je la félicitais chaleureusement.
Ma belle enfant.
Oh, ça y est.
Deux jours plus tard, je fus surpris de recevoir un second appel téléphonique d'une toute autre nature. D'une voix sourde, presque inaudible, elle gémit « J'ai perdu mon bébé. » «
Quoi ?»«
Oui, mon bébé est mort cette nuit dans la nursery. » Personne ne sait ce qui s'est passé. En entendant ces mots terrifiants, je fus frappé de stupeur et ne pus balbutier que « ce n'est pas possible, c'est absurde ». Pendant quelque temps, Hélène ne donne plus de ses nouvelles. Son silence ne m'étonnait pas, parce que je savais par expérience combien la personne endeuillée, effondrée sous les coups d'une perte violente, refuse de retrouver tous ceux qui, avant le drame, étaient liés à l'être disparu. J'avais même imaginé que ma patiente allait arrêter définitivement son analyse, parce que j'avais été associé à sa lutte contre l'infertilité, à la réussite de sa grossesse, au bonheur de la naissance et maintenant à la douleur inhumaine d'une perte brutale et incompréhensible. Sans doute allait-elle renoncer à poursuivre avec moi son chemin analytique pour le reprendre plus tard avec un autre praticien. J'ai pensé qu'après un tel séisme, son monde serait bouleversé et que je ne la reverrais plus. Mais la réalité s'est avérée différente. En effet, peu de temps après l'événement tragique, un soir d'automne, Hélène revint me voir. Épuisée, elle était incapable de se déplacer seule. Une amie avait dû l'accompagner à mon cabinet. En allant l'accueillir à la salle d'attente, je découvre une femme brisée par la détresse. Elle n'était qu'un corps exténué, vidé de son âme, se traînant jusqu'à s'affaler dans le fauteuil, J'ai tout perdu, me dit-elle d'une voix lointaine. Il ne me reste que les souvenirs, le regard de mon bébé quand il était encore vivant, des images qui défilent dans ma tête, que je vois et revois mille une fois, mais aujourd'hui, il est mort. Je vous avoue, docteur, que si le pédiatre de la clinique m'avait laissé faire, je serais resté dans la nursery avec mon bébé mort. Je l'aurais serré dans mes bras, je l'aurais bercé, et nous serions restés tous les deux en silence longtemps. En l'écoutant, j'étais saisi. J'avais le cœur glacé devant cette mère éplorée qui semblait vouloir quitter le monde des vivants et rejoindre son bébé là où il est, dans la mort. Mais entendons-nous, Hélène ne voulait pas mourir. Elle ne parle pas des suicides. Elle voulait seulement ne pas se séparer de son enfant disparu. Sachez qu'un deuil, aussi douloureux soit-il, n'est pas une maladie ni une dépression. Certes, Hélène était anéantie sous le choc de la disparition de son fils, mais elle gardait l'estime de soi. Elle n'était ni haineuse contre elle-même, ni suicidaire. Deux symptômes caractéristiques de la dépression. Dans le deuil, l'endeuillé garde l'estime de soi. Dans la dépression, le déprimé perd l'estime de soi. Et si vous vous souvenez de Michiko, la patiente mélancolique dont nous avons parlé dans l'un de nos premiers épisodes, nous dirons que dans la mélancolie, le mélancolique est emporté par la haine de soi, la haine meurtrière de soi. En résumé, dans le deuil, l'estime de soi est préservée. C'est le cas d'Hélène. Dans la dépression, l'estime de soi est perdue. Et dans la mélancolie, l'estime de soi devient haine de soi. Je voudrais vous dire encore un mot à propos du désir d'Hélène de rester dans la nursery avec son bébé mort. De nombreux chercheurs qui ont étudié des cas d'enfants morts nés à l'hôpital ou morts très peu de temps après leur naissance, recommandent au personnel médical en néonatologie, chargé des soins palliatifs, d'encourager les parents qui viennent de perdre leur enfant à rester un long moment avec leur bébé mort, le toucher, l'embrasser, et comme Hélène le réclamait, le serrer dans leurs bras. Dans le même esprit, je souligne l'importance pour les parents endeuillés de donner une sépulture au petit défunt en inscrivant son nom sur une pierre tombale devant laquelle se recueillir. Les funérailles sont indispensables pour les parents parce qu'elles leur permettent de réaliser que leur enfant vivant est aujourd'hui mort et que désormais, ils ne pourront plus l'aimer qu'en pensée. Aussi dirons-nous que les funérailles signent pour toute personne endeuillée le passage du corps mort de l'aimé disparu à l'image vivante et vénérée de l'aimé disparu. Nous savons que depuis l'origine des temps, l'être humain a besoin des rituels et des symboles. Qu'est-ce qu'un symbole ? Un symbole est une chose, quelle qu'elle soit, qui vient à la place d'une autre. De même, le rituel des funérailles ainsi que la pierre tombale sont les symboles sacrés qui viennent à la place des lettres perdues que nous ne cessons d'aimer. Ici, en vous parlant de pierre tombale, je ne peux m'empêcher de partager avec vous un souvenir récent. En visitant au mois d'août un cimetière en Bretagne, j'ai marché dans l'une des allées ombragées quand soudain, je découvre une petite tombe toute blanche avec une inscription lettres d'or qui m'a profondément ému. Il y était écrit ceci « Je suis un enfant des 2 ans. Je quitte cette terre sans jamais connaître les joies et les peines d'une existence ordinaire. » Je lisais et relisais ces mots sans pouvoir m'en arracher. J'entendais ce bébé mort qui s'adresse à nous, les vivants, et me disait que la mort parlait à la vie.
France Inter, l'inconscient, avec le docteur Nasio.
Retrouvons notre patiente Hélène le soir où elle est revenue me voir pour reprendre son analyse. En la voyant défaite, enfoncée dans le fauteuil, je me disais que la douleur extrême d'une mère qui vient de perdre son fils devait être une sensation atroce de dislocation du corps, comme si les os se séparaient chacun pour soi. J'avais l'impression à ces moments que tout mon savoir sur la douleur du deuil, curieusement à cette époque j'écrivais un livre sur la douleur, eh bien j'avais l'impression que tout mon savoir ne me protégeait pas de l'impact violent que signifiait être assis devant une femme broyée par la douleur. Nos regards s'est croisés et s'évitaient, le sien par fatigue, le mien par pudeur. Hormis quelques mots échangés, notre rencontre ne tenait qu'un fil. Nous nous résignions à être faibles ensemble. Hélène, terrassée par son indicible chagrin, et moi, impuissant, sans savoir que faire ni que dire, si ce n'est d'essayer de ressentir ce que pouvait ressentir cet être dont l'âme était mutilée par le malheur. Je savais que si j'arrivais à imaginer et à ressentir sa douleur, j'aurais une chance de trouver les paroles qui saurait apaiser ma patiente. Mais je me disais aussi que cette douleur aiguë, tout insupportable qu'elle soit, était un sursaut des vies, le dernier rempart contre la folie. Alors que la douleur du deuil est une crispation de l'être, la folie est une fracture de l'être. Certes, Hélène souffre immensement, mais elle n'est pas folle. Cependant, depuis la mort de son bébé, elle a souvent eu peur de devenir folle, car il lui est arrivé d'avoir des hallucinations fugaces. Il est vrai que la souffrance d'un endeuillé peut être tellement intense que parfois elle prend la forme d'une hallucination passagère ou d'un bref délire sans que la personne soit malade. Je me souviens d'une séance où Hélène m'avait confié que la veille au soir, étant seule à la maison, elle avait senti si fortement la présence de son bébé qu'elle l'avait vu sur le lit de sa chambre, la regardant fixement. « Avec le retour d'Hélène, sa cure a repris. C'est alors que j'ai pu l'accompagner le temps de l'analyse sur le chemin d'un deuil qui, pour une mère ayant perdu son fils, ne peut être qu'un deuil sans fin. Mais qu'est-ce qu'un deuil ? Je vous en propose deux définitions qui nous aideront à mieux comprendre le chagrin d'Hélène. Le deuil, c'est un temps. Le temps qu'il faut pour accepter de vivre avec l'absence de celui ou de celle que nous avons tellement aimé, que nous aimons et que nous venons de perdre. Or, accepter de vivre avec l'absence de l'aimé disparu ne signifie pas que je l'oublie. Bien au contraire, je l'aime toujours aussi fort qu'avant, mais différemment. Voici maintenant la deuxième définition du deuil. Le deuil, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à aimer différemment l'être disparu, apprendre à l'aimer autrement que lorsqu'il était vivant. J'aimais mon père quand il était vivant, et je l'aime toujours autant, mais différemment maintenant qu'il est mort. Eh bien, voilà les deux apprentissages qu'Hélène va devoir accomplir sans jamais y parvenir complètement. Apprendre peu à peu à vivre avec l'absence de son fils et apprendre peu à peu à l'aimer différemment de quand il était vivant. Pendant les deux années qui ont suivi la mort de son fils, nos séances furent consacrées à différents thèmes qui tous affluaient vers un idéal, l'idéal auquel nous aspirions, Hélène et moi. Quel idéal ! Qu'elle retrouve ses forces jusqu'à se sentir mieux et qu'elle puisse accueillir sereinement ce qui de la vie vient à elle. Je me souviens que les thèmes que nous avons travaillés et retravaillés à cette époque étaient principalement, et je vous les énumère, la mort de son bébé, vécue comme l'arrachement brutal d'une partie d'elle-même, le sentiment que cette mort était une injustice, pourquoi moi, répétait-elle souvent, son intolérance à la présence des autres, tout m'écorche, s'éplaignait-elle. Un autre thème qui revenait souvent était sa colère contre les médecins soupçonnés d'avoir commis des fautes professionnelles graves et son sentiment de culpabilité d'avoir choisi une si mauvaise clinique. Durant de nombreuses séances, nous nous sommes attardés sur un autre thème, le besoin qu'elle éprouvait de se replier sur elle-même et s'isoler pour s'enivrer de chagrin. Cette nécessité de rester seule insupportait beaucoup son mari et créait des tensions au sein de leur couple. Mais la question la plus sensible que nous avons abordée avec Hélène durant ces années était celle d'une nouvelle grossesse. Avant d'être enceinte, le mot qui revenait sans cesse dans la bouche d'Hélène était « Je veux un enfant ». Maintenant, après la perte de son bébé, elle a très peur de s'engager dans une nouvelle grossesse. Avec son conjoint, Hélène doute et alterne entre l'angoisse d'une grossesse à risque et l'envie d'avoir un autre enfant. Toujours à cette époque, eut lieu une séance où Hélène, qui allait déjà mieux, s'est fâchée avec son beau-frère, qui une fois de plus a voulu la consoler avec des paroles qui l'a blessée vivement. « Ne t'inquiète pas, fais un autre enfant et tu oublieras, tu as encore le temps, lui disait-il. » Ces mots maladroits la mettaient hors d'elle. Je comprenais parfaitement la véhémence de sa réaction parce que elle recevait ces phrases prétendument réconfortante comme une incitation à oublier son enfant mort, à le trahir. Comme si Hélène, indignée, criait au monde « J'ai perdu mon enfant et vous voudriez que je l'oublie, que je le trahisse, qu'il disparaisse une deuxième fois. Jamais, vous m'entendez, jamais, il existe et continuera à exister en moi. » J'ai compris ce jour-là combien l'endeuillé tenait à garder sa douleur. Parce que sa douleur, la douleur de l'absence de son aimé, est un cri d'amour et une preuve de fidélité au défunt. Je pleure, dirait Hélène, et je ne veux pas m'arrêter de pleurer, parce que quand je pleure, je l'aime. Mon chagrin est mon amour.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Je pense aussi à une autre séance où je suis intervenu d'une manière qui nous fera entrer dans la dernière phase de la cure. Hélène était allongée et me parlait avec le ton de quelqu'un qui vient de retrouver le goût de vivre. J'étais très concentré dans l'écoute. Et en répondant à une de ses questions, j'ai prononcé les mots suivants presque à mon insu. Je lui ai dit « Si un deuxième enfant vient au monde, je veux dire le frère ou la sœur d'Enzo, avant même que j'aie pu finir ma phrase, la patiente m'interrompit et surprise s'exclama « Mais c'est la première fois que j'entends dire le frère ou la sœur d'Enzo. J'ai l'impression d'être libéré d'un poids énorme. » Il me vint alors une évocation que je communiquai aussitôt à la patiente. Où qu'il soit en ces moments, je suis sûr qu'Enzo serait heureux d'apprendre qu'un jour, vous lui donnerez un petit frère ou une petite sœur. J'étais étonné d'avoir pu exprimer spontanément en si peu de mots l'essentiel de mon idée, selon laquelle la douleur de l'endeuillé s'apaise s'il réussit à aimer une autre personne sans se sentir coupable de trahir l'aimé disparu. Je voudrais répéter l'essentiel de mon idée, selon laquelle la douleur de l'endeuillé s'apaise s'il réussit à aimer une autre personne sans se sentir coupable de trahir l'aimé qui vient de disparaître. Mon intervention a soulagé Hélène parce qu'elle a compris qu'un éventuel futur enfant ne prendra jamais la place du frère aîné aujourd'hui défunt. Enzo restera pour toujours l'irremplaçable premier enfant d'Hélène et de son mari. Quelques mois plus tard, après cette séance, nous avons convenu d'arrêter l'analyse, quitte à nous revoir ponctuellement si cela s'avérait nécessaire. C'est ainsi que je procède d'habitude avec tous les patients qui ont terminé leur cure. Je leur dis que je reste disponible pour le revoir, ne serait-ce qu'une seule fois, un peu à la carte, sans que cela signifie forcément une reprise. Je vous raconte qu'à l'issue de notre travail, Hélène allait beaucoup mieux, sans parvenir cependant à décider avec son mari d'engager une nouvelle grossesse. La peur de souffrir d'un nouveau traumatisme était plus forte que le désir d'avoir un nouvel enfant. Professionnellement, Hélène rêvait de changer de métier et elle avait l'intention de quitter l'immobilier et rejoindre une amie d'enfance, directrice d'une galerie d'art, qui lui proposait de s'occuper d'une nouvelle boutique. Avant de conclure, je voudrais vous dire en peu de mots l'essentiel de ce qui s'est passé chez ma patiente après la mort de son enfant. Hélène a changé. Elle était revenue me voir foudroyée par la douleur. Et maintenant, elle termine son analyse, soulagée de sa douleur et ouverte à ce qui vient à elle. Lors de notre dernière séance, avant de nous quitter, elle m'a adressé une parole touchante. C'est avec ces mots que je voudrais terminer. Je pense, docteur, que ma douleur s'est apaisée lorsque j'ai compris que la mort de mon fils, qui est l'événement central de ma vie, n'est pas toute ma vie. Le souvenir du drame ne m'envahit plus. Certes, Enzo est et sera pour toujours au cœur de mon existence. Mais aujourd'hui, je peux aimer et travailler sans penser tout le temps à lui et sans me sentir coupable de sa mort.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Ne partez pas, je vais répondre aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode en podcast, qui est disponible sur la page L'inconscient sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi poser vos questions en téléphonant au 01 56 40 64 04. Mais avant nos échanges, je vous propose d'écouter Jeanne Birkin.
J'étais posé ces fleurs de printemps. Endeuillées, dispersées au vent. Jardinière empressée, les yeux noyés, comme je les hais. Ces murs épais sous mes pas, je les hais.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, ici Paul. Je voudrais savoir si vous allez aborder le thème de l'échec quand la psychanalyse ne marche pas, ne réussit pas, et nous en dire plus. Merci beaucoup.
Paul, le récit que je viens de faire d'Hélène, c'est le récit d'un accompagnement. Mais Hélène est partie de son travail avec moi sans qu'il y ait un succès. Je ne dis pas que c'est un échec, je ne dis pas que c'est un succès. La vie continue. Hélène, quand nous nous sommes séparés, elle a décidé de ne plus tenter une nouvelle grossesse. Pour certains, c'est un échec. Pour d'autres, c'est une réussite. Ça dépend. Et je voudrais vous dire que souvent, effectivement, les patients que je vous ai présentés, la fin est une fin positive. C'est vrai. Je regrette, c'est comme ça. Je n'ai pas inventé. C'est la réalité des cas que j'ai vus et je n'oublie pas. C'est probable, Paul, que les cas où on a été très heureux de voir que la mission pour laquelle nous avons été engagés, c'est-à-dire celle d'accompagner le patient et l'aider à être plus heureux avec lui-même, il est vrai que lorsque il y a une histoire où nous avons réussi notre mission, c'est une histoire qui reste plus présente dans notre souvenir. Et donc, c'est sûr que beaucoup d'histoires que je vous raconte sont des histoires positives parce que sont celles qui m'ont marqué et que je garde précieusement. Mais bon, attendons les épisodes, certainement il y aura d'autres. Mais déjà aujourd'hui, Hélène, c'est une histoire qui ne finit pas nécessairement dans la joie. Elle finit elle finit au mieux qu'on a pu.
Est-il possible qu'il y ait un lien entre l'infertilité d'Hélène et la perte de son bébé ?
Votre question est très importante. Sachez que nous nous sommes posé cette question. Je me suis posé cette question à l'époque. Hélène se posait cette question. Et toute l'équipe médicale se posait cette question. Nous n'avons pas su répondre. C'est très difficile de bien répondre. Et cela me conduit à rappeler aux auditeurs et aux auditrices quelque chose qu'ils savent, que l'infertilité, malgré les immenses progrès que nous avons faits en médecine, reste un mystère. On ne connaît pas bien comment se produit cette infertilité. Pourquoi, dans un couple, avec tel homme et telle femme, il y a cette impossibilité de faire un enfant? Nous connaissons tous ce phénomène extraordinaire, curieux, des couples qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Ils font des tentatives diverses, toutes infructueuses, le temps passe, que se passe-t-il ? Ils décident d'adopter un enfant. Et ils adoptent l'enfant, ils vivent avec l'enfant adopté, et au bout de 6 mois, la femme tombe enceinte. Eh bien, ça, ce que je raconte là, de nombreux auditeurs et auditrices le connaissent, ce phénomène. Et bien entendu, les chercheurs, pour comprendre le phénomène de l'infertilité, le savent aussi. Il y a là un phénomène et un facteur psychologique indiscutable. Mais ce n'est pas tant que je voulais souligner l'aspect psychologique. Je veux souligner l'énigme de l'infertilité. Donc oui, aujourd'hui, 2022, l'infertilité, nous avons fait d'immenses progrès en médecine, mais elle reste une énigme. Donc, non Marion, nous ne savons pas quelle est la relation entre l'infertilité d'Hélène et la perte de son bébé.
Merci docteur Nazio, je me présente. Je m'appelle Mathieu, je suis moi aussi docteur et je suis en train de me former à la psychanalyse. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que vous laissiez aussi justement exprimer votre intuition. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que votre idée inconsciente devienne consciente et passe de cet inconscient à l'état conscient en étant le plus efficace possible, c'est-à-dire en étant le plus rapide possible, tout en vous évitant de dire une bêtise et de tomber aussi juste comme votre intuition d'évoquer le fait que Enzo ait un petit frère ou une petite sœur. Voilà, merci beaucoup pour votre émission, merci.
Merci Mathieu de votre... C'est plutôt une remarque plus qu'une question, vous soulignez mes interventions, l'intuition, la perspicacité que je peux avoir à certains moments. Je vous dis tout de suite que, attention, je peux me tromper aussi, et je me suis trompé de nombreuses fois. Si je ne me trompais pas, ça serait anormal. Non, je me suis trompé plusieurs fois. C'est vrai qu'au fil des ans, grâce à l'expérience, très important, des patientes comme Hélène, j'ai reçu de nombreuses femmes dans cette situation-là. J'ai eu de nombreuses expériences des patients liées à la mort. Donc, évidemment, l'expérience contribue. Et puis, il y a d'autres facteurs qui m'ont permis d'avoir une intuition assez avertie, une intuition assez affinée, qui est par exemple l'étude, je le dis toujours, lire. Parce que lire, c'est lire l'expérience des autres. Donc j'ai beaucoup lu et je lis toujours et c'est un plaisir d'apprendre et ça m'aide beaucoup à être sensible à l'écoute de la plainte et de la souffrance de mon patient. Un autre facteur qui a joué, ou qui joue toujours, c'est les maîtres que j'ai pu avoir. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres remarquables. Et je suis toujours reconnaissant envers mes maîtres, à commencer par mon propre psychanalyste, puisque, comme vous le savez, j'ai fait une psychanalyse personnelle qui m'a énormément aidé. Et donc, on peut dire que mon premier maître fut mon propre psychanalyste. Mais il n'y a pas que lui. Il y a eu d'autres grands penseurs, d'autres grands écrivains de la psychanalyse, chercheurs, qui m'ont transmis leur expérience. Souvent, en parlant avec eux, d'autres fois, en leur soumettant mes cas cliniques, ça s'appelle une supervision, c'est-à-dire il y a un aîné qui supervise ce que vous faites, eh bien j'ai fait 20 ans de supervision. Et donc Mathieu, beaucoup des facteurs contribuent à ce que je puisse avoir cette intuition juste, comme vous dites. Ça veut dire une parole dite au bon moment et qui soit, attention, c'est ça qui est la clé, qui soit recevable par le patient. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tellement d'avoir l'intuition, c'est de savoir l'exprimer à un moment juste et à un moment où l'autre est réceptif pour l'accepter. Alors, quand une intervention porte, effectivement, il y a un impact qui fait que le patient intègre cette parole et quelque chose en lui va faire qu'il prend conscience, il réalise. Mais attention, il réalise quelque chose qui était déjà en lui. On croit, à tort, qu'un thérapeute doit dire des choses étonnantes, doit dire du scoop, quelque chose de nouveau au patient, que le patient ne sait pas. Ce n'est pas vrai. Toute parole du thérapeute est toujours une parole sur quelque chose que le patient sait déjà parfaitement, sauf qu'il n'a pas conscience, il n'a pas une conscience claire. C'est pour ça qu'on dit « il réalise ». Quand on lui dit une parole juste, il réalise, parce que ce que le thérapeute lui dit, c'était déjà à fleur de peau, prêt à éclore, prêt à affleurer à la conscience. Donc, c'est très important de savoir que la parole du thérapeute n'est pas une parole complètement neuve. Je le dis à mes patients, je ne suis pas là pour vous donner des scoops. Je suis là pour vous dire ce que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas encore réalisé.
Bonjour docteur Nazio et merci de votre émission. Je voulais témoigner et vous poser une question. Mes parents ont perdu leur fille, leur premier enfant, à l'âge de 18 mois. Je suis née 10 ans après. Entre-temps, mes parents ont eu deux garçons. Je suis la dernière née par accident et ma mère m'a donné le même prénom que ma sœur décédée. Comment cela peut-il peser sur moi ? J'ai un lourd rattachement au passé, associé à une joie de vivre formidable. Je fais souvent des rêves d'injustice, d'incapacité à aller vers la joie, la vie, et je ressens souvent de la jalousie face à ceux qui arrivent à vivre pleinement dans la joie. Est-ce que c'est dû à cela, l'apport que ma mère m'a donné en me transmettant ce prénom? Et est-ce qu'à mon tour, je risque de transmettre cette lourdeur, cette difficulté à vivre, à mon garçon âgé de 15 ans aujourd'hui? Merci de vos réponses, mes excuses pour l'émotion et à très bientôt.
Oui, d'abord je dois vous dire que j'ai senti votre émotion en me posant la question. Je le comprends, parce que la question que vous me posez est une question qui est présente en vous depuis très longtemps. Le récit que vous avez entendu n'a fait que faire revenir en vous ces sentiments, cette pensée, cette question. Est-ce que le fait que ma mère, par exemple, m'a donné le nom, le prénom de ma sœur décédée, est-ce que ça a joué dans ma vie? Je pense que oui. C'était une tradition à une époque. Aujourd'hui, heureusement, on les fait moins. Des parents qui perdent un enfant, il y a un deuxième qui naît, et ils vont lui donner à l'enfant nouveau-né le prénom de celui qui est décédé. C'est une erreur. Je conviens. Il faut jamais faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est faire porter au nouvel enfant le poids de la mort de son frère aîné. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'épisode probablement que vous avez entendu. Sinon, je me permets de vous demander d'aller l'écouter. C'est le podcast qui s'appelle Muriel. Et c'est le nom de la patiente qui avait... C'est le cas exactement avec cette situation-là. C'est une patiente qui était née après la mort de son frère aîné et ça a énormément pesé sur sa vie. Je pense que vous-même, je l'entends, j'entends l'émotion, mais j'entends aussi vos paroles. Et vous avez dit, et je me réjouis de vous entendre dire ça, que vous avez une joie de vivre formidable. Et je dirais, c'est formidable ça. Je suis très content que vous puissiez dire ça. Et je vous assure, non, non, en vous écoutant parler, non, vous ne transmettrez pas votre lourdeur à votre enfant de 15 ans. Non. Soyez rassurés, je ne vous connais pas, mais je suis sûr que vous ne le transmettrez pas. Et vous ne le transmettrez pas parce que, pour me poser la question comme vous l'avez fait, c'est quelqu'un qui n'a pas à transmettre la lourdeur à son descendant. C'est ce que votre maman n'a pas fait. Votre maman était tellement atteinte, vous avez vu, 10 ans après, ça veut dire qu'elle a gardé la douleur de jadis et elle a effectivement voulu comme rendre hommage à cet enfant mort, à cette petite fille décédée, rendre hommage en vous donnant à vous son prénom. C'était une erreur, mais il faut comprendre aussi pourquoi elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle était endolorie encore. Le deuil d'un enfant décédé, c'est un deuil interminable, interminable. Voilà ce que je peux vous dire, mais soyez rassurés, je répète, vous ne transmettrez votre lourdeur de votre passé à votre enfant de 15 ans. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir un thème aussi triste que celui d'une maman qui a perdu son bébé et de voir à l'œuvre un psychanalyste devant son patient endeuillé. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Fabien Capel à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir nos prochains épisodes en podcast. Si vous écoutez ces podcasts et s'ils vous inspirent, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.